Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit pour la première fois dans notre studio de la colline Franz Benjamin, qui est député libéral et troisième vice-président de l'Assemblée nationale, un poste qu'il a tant insisté pour obtenir il y a un an. Une querelle a éclaté même au Parti libéral, on s'en souvient, et ça a débouché sur l'expulsion de Marie-Claude Nichols et la démission de Dominique Anglade, la chef. Un an plus tard, M. Benjamin regrette-t-il cet épisode? Poète, il nous parle aussi d'un concours de création littéraire qu'il a conçu et lancé dans les écoles du Québec. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les Voix de la Voix. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, sans Guillaume Lavoie.
Go, go, go! Go, go! Gagnon!
Ouais, donne-les ton show.
Ben oui, Gagnon, comme dans Marc-André Gagnon qui est avec nous, bonjour.
Mon cher Antoine, ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté devant son micro, ça me fait plaisir d'être là.
Grand plaisir aussi d'écouter Lancé Compte. Donc Marc-André, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, on perd pas de temps, on va tout de suite à l'analyse sportive de la période de questions.
Certainement.
Aujourd'hui, c'était pas un grand match.
Oui, ben c'était jour de match, mais bon, une fois la rondelle en jeu, on peut dire que Marc Tanguay, le chef libéral par intérim, ben, a patiné pour lancer la période des questions en accusant François Legault et Pierre Fitzgibbon de manquer de transparence, notamment sur les projets de mini-centrale avec Hydro-Québec. Puis c'était vraiment, bon, rien de très enlevant. Greg Kelly est sauté sur la glace pour en remettre, sans trop de succès non plus, puisque François Legault, ben, essentiellement, a rappelé qu'Hydro-Québec se prépare à déposer début novembre, la fameuse mise à jour du plan stratégique d'Hydro-Québec. J'étais d'ailleurs à la Romaine la semaine dernière et c'est ben là que Michael Sabia, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, nous a précisé que ça s'en venait pour le début novembre.
François Legault est avec son nouvel ami.
Jean Charest. C'était quand même assez surréaliste.
Ben oui.
Je fais une petite parenthèse de les voir les deux bodés. Il me semble qu'il y a quelques années, je me souviens de François Legault dans l'opposition, quand Jean Charest était devant lui, on n'aurait jamais pu
Mais c'est une invitation qui était pleine d'élégance quand même, parce que de la part du gouvernement, je trouve, c'est un peu comme René Lévesque qui avait invité Robert Bourassa à l'inauguration d'LG2. Donc, c'est une tradition québécoise qu'on doit maintenir. On le sait, on voit au sud de la frontière où ça mène la partisanerie débile, là, où justement ce genre de choses-là serait plus possible.
Mais j'ai remarqué une chose, c'est que François Legault, sur ses réseaux sociaux, n'a pas fait exprès pour mettre les photos sur lesquelles on voyait Jean Charest. Mais quand même, dans son discours, t'as raison, c'était très chic. Il a remercié Jean Charest d'avoir eu le courage de faire des grands projets de barrage. On referme la parenthèse.
Oui.
Donc, on s'en va donc à la deuxième période de cette période des questions.
Oui.
Gabriel Nadeau-Dubois, donc, s'est lancé, le chef parlementaire de Québec solidaire, essentiellement en soulevant l'incohérence entre les coupures dans le financement des sociétés de transport que François Legault...
C'était un beau lancer frappé, je trouve.
Oui.
Oui.
Bon, en faisant un parallèle avec les propos que Pierre Fitzgibbon a tenus au retour de l'été, hein, en disant qu'il faudrait réduire de moitié le parc automobile.
Oui.
Comment peut-on donc réduire le parc automobile si on coupe dans le financement des sociétés de transport?
Très bonne question, bien ciselée, oui.
Oui, mais Madame Guilbeault, Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, l'a dit un peu hier, ce n'est que le début d'une négociation avec les municipalités et sociétés de transport. Donc ça, c'est un dossier à suivre. Mais il a vraiment fallu attendre Manon Massé, qui est visiblement en forme. Hein. On sait qu'elle a pris un congé de maladie.
Opéré au cœur.
Exact, dans les derniers mois, quand même quelque chose de sérieux. Et là, elle était visiblement en forme. Elle a fait flèche de tout bois en déclenchant une d'abord envers Pierre Fitzgibbon.
On a l'extrait.
Il manque 18 millions aux banques alimentaires. Ça fait même pas 16 000 piastres par organisme. Le ministre de l'Économie, lui, dépense ça chaque matin avant même qu'il ait déjeuné. Pour s'assurer que tout le monde mange à sa faim, est-ce que la CAQ va arrêter de tourner autour du pot puis enfin donner aux banques alimentaires l'argent dont elles ont besoin?
Monsieur le leader du gouvernement, brièvement,
Madame la Présidente, dans notre chambre, on n'est pas supposé attaquer la conduite des députés puis la personne des députés. Puis ce que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques vient de faire, c'est de viser un membre de cette Assemblée qui décide de s'investir corps et âme pour le service public. Et on lui reproche, Madame la Présidente, son patrimoine. C'est quoi le message qu'on envoie de Québec solidaire?
Le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais vous reconnaître très brièvement. Je suis en train de trancher pour que nous puissions poursuivre, mais je vous reconnais brièvement.
Ma collègue ne parlait évidemment pas de ses dépenses personnelles, mais ses dépenses à titre de ministre.
Et Manon Massé, toujours en forme par la suite, a décoché une autre flèche, mais cette fois-ci envers la ministre de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau, puisque un des dossiers chauds aujourd'hui, c'était celui des banques alimentaires,
ben oui.
Qui ont déjà dépensé tout l'argent que le gouvernement leur a remis au début de l'année. Et là, les banques alimentaires réclament 18 millions de dollars et Mme Rouleau s'est défendue en disant ben attendez, on en a mis là, de l'argent dans les derniers mois et voici ce que Manon Massé avait à sortir de sa boîte de pogo du congélateur.
4 millions, c'était entre autres pour des infrastructures. Puis entre vous et moi, là, des 2 par 4, ça se mange pas. On n'est pas des castors. Le monde a besoin de mettre dans leur panier d'épicerie ce qu'ils ont besoin pour manger. Alors, ma question est simple. Ils avaient nommé clairement qu'ils avaient besoin de 24 millions. Il y a 6 millions qui a été tiré. Où est l'autre 18 millions? Et est-ce que la ministre va leur donner?
Pas réduire cette question extrêmement importante à une question de castor. Vraiment, là, c'est de ridiculiser la situation qui est tragique pour des gens. Et qu'on aide. On aide les banques alimentaires.
Madame Rouleau n'a pas apprécié. On a même entendu François Legault lui chuchoter qu'elle était capable de faire mieux, Madame Massé.
Ouais.
J'ai entendu des caquistes aussi l'accuser d'essayer de faire des clips. Alors voilà, ça a fonctionné. Les clips sont dans cette émission.
Oui.
En troisième période, Antoine.
Oui.
Alors, un duel entre François Legault et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, vraiment, les deux se sont adonnés à une véritable bagarre de mots. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a jeté les...
C'est un très bel échange.
Il y avait de la vigueur.
Ouais.
Il y avait de la vigueur, il y avait de la conviction de part et d'autre. Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, qui a jeté les gants en disant, contrairement à ce que M. Legault laissait entendre depuis le début de la semaine, qu'on peut se passer de la péréquation si le Québec devient indépendant et qu'il y a des limites à renier ce qu'on a déjà dit et à renoncer ce qu'on a déjà été. On a un extrait de cet échange savoureux.
C'est que c'est pas ça la priorité. C'est pas de débattre si on a besoin d'une armée, si on a besoin d'une banque québécoise pour avoir notre monnaie. Actuellement, les gens veulent qu'on s'occupe
complémentaire.
Madame la Présidente, c'est hallucinant, je crois entendre Jean Charest. Mot pour mot.
C'est devenu ça.
Peut-être que tout s'est passé à la romaine. Jean Charest lui a donné les phrases.
Peut-être qu'une nouvelle bromance
oui.
est née à la romaine. On ne le sait pas. Antoine, mais voilà comme on en parlait. Alors, effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a terminé avec cette accusation.
Qui a fâché François Legault. Après ça, François Legault, il était encore plus vigoureux dans ses attaques.
Il l'a pas aimé. Et comme je le disais, il l'a même caché de ses réseaux sociaux.
On peut écouter sa réponse. Il était vraiment fâché.
On peut bien essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Pourquoi le chef du Parti québécois, il n'en a pas parlé dans Jean Talon? Pourquoi, quand il arrive les élections, il ne parle pas de souveraineté? Là, il en parle maintenant que c'est fini dans Jean Talon. qui aille demander, là, en fin de semaine, aux Québécois, là, voulez-vous un référendum sur la souveraineté? Vous allez voir qu'il va être surpris de la réponse.
Alors, il n'y en a effectivement pas été beaucoup question lors de l'élection partielle dans Jean Talon, mais depuis l'élection partielle dans Jean Talon, où le Parti québécois a eu une victoire quand même assez éclatante, bien là, il y a beaucoup question de souveraineté. Mm-hmm. Et là-dessus, le Parti québécois l'impose dans l'agenda politique, ce sujet. Et alors, force est de constater que c'était un bon calcul politique pour Paul Saint-Pierre Plamondon de ne pas de prendre la décision de reporter donc le dévoilement de son budget de l'an 1 après
à deux, trois
l'élection
reprises.
Partielle, puisque là, ils occupent beaucoup de l'espace de l'espace public avec ce sujet.
On sent que Québec solidaire est obligé de dire « Ah ben oui, on est d'accord avec ça », puis ils sont un peu à la remorque.
C'est pas terminé. On va en apprendre, je pense, davantage, Antoine, dans les pages du Journal de Québec, du Journal Montréal de demain.
Puis lundi, c'est la présentation officielle.
C'est la grande présentation officielle. Et le week-end d'après, le Conseil national aussi du Parti québécois. Alors, ils vont continuer d'occuper beaucoup de glace, de prendre beaucoup de place.
Go, go, go!
Puis on a appris aujourd'hui qu'il y a un nouveau ministre.
Oui, ben pour l'Abitibi-Témiscamingue.
Ben oui.
Donc, Jean Boulet, qui hérite de la responsabilité régionale de l'Abitibi-Témiscamingue,
ouais,
que le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a décidé d'abandonner pour mieux se concentrer justement sur les dossiers de la culture et de la jeunesse. Monsieur Lacombe, lorsqu'il a été nommé et qu'il a obtenu la responsabilité ministérielle régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, était venu répondre ici même en studio,
oui,
Antoine, aux critiques. Il avait dit qu'il n'avait pas la tête dans le sable, qu'il n'allait pas se prendre pour un député de l'Abitibi-Témiscamingue et qu'il allait miser beaucoup sur ses trois collègues de l'Abitibi pour faire le travail. Et là, ben voilà que c'est Jean Boulet, donc, qui a aussi la responsabilité régionale de la Mauricie et celle du Nord du Québec, ce qui fait en sorte que M. Boulet, dorénavant, est responsable de plus de la moitié du territoire du Québec sur le plan régional. C'est quand même pas rien.
Il va se promener dans des petits avions.
Oui, pas
j'ai
mal.
L'impression.
Alors, vraiment, un gros défi pour M. Boulet.
Puis il va avoir Pierre Dufour comme adjoint, comme l'avait...
Exact, ça change pas.
Son prédécesseur, mais il l'a comme appris en point de presse avec toi.
Oui, c'était quand même particulier, mais
oui.
Bon, c'est une responsabilité que son prédécesseur conserve, effectivement. Puis, ben, ce que ça fait vraiment concrètement, on le sait pas. Et Suzanne Blais, qui est aussi députée de la même région, a quand même reconnu dans les corridors que dans la région, ça fait pas nécessairement l'unanimité, là. Donc, probablement qu'il y a elle ne l'a pas dit, là, puisque c'est la prérogative du premier ministre, mais que dans la région, ils aimeraient avoir un représentant à la table des ministres qui vient de la région.
On termine en parlant de Québec solidaire. Ce matin, on a été très surpris, pendant le point de presse, de voir Manon Massé et Alexandre Leduc qui ne savaient pas de quoi on parlait. Et c'était Marie-Michèle Sioui du Devoir qui posait la question. On va les écouter.
Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Stéphane Le Bouillonnais?
Je ne sais pas de quoi vous me parlez, alors c'est difficile de vous dire.
Il a été nommé sous-ministre au ministère de la cybersécurité.
C'est pour ça la motion. Vous
n'étiez pas au courant? Non, je ne sais pas.
Écoutez, je vais laisser mon collègue Haroun réagir à ça parce que, honnêtement, je ne veux pas me mettre les mains là-dedans, je ne sais pas de quoi on parle.
Vous passez la motion du PQ un matin, je comprends
pourquoi. Donc, Mme Massé n'avait pas lu ses journaux. Puis Alexandre Leduc non plus, même que lui, il disait « Ah, ben là, je comprends la motion que le PQ vient de déposer, là, puis ça, il est leader parlementaire, donc ils discutent des motions, eux autres. »
C'est quand même assez étonnant, puisque lorsque les députés des partis d'opposition se présentent donc à ce qu'on appelle le « hot room » le matin, c'est pour réagir au sujet de l'actualité.
Du jour, ben oui.
Du jour, pour répondre à nos questions.
C'est écrit dans les convocations.
Alors, moi, comme correspondant parlementaire, et comme tous mes collègues, la première chose que je fais en me levant, c'est de lire tout ce qu'il y a dans les journaux, qui concerne évidemment essentiellement la politique et tout, pour après avoir des questions à poser aux élus. Puis, bon, on peut s'imaginer que les élus font la même chose. Et eux, ils ont même des recherchistes qui font le travail pour eux, qui font des revues de presse. Alors, c'était quand même étonnant de voir que ni Manon Massé, ni M. Leduc n'étaient au courant de cette histoire. Nomination qui est quand même survenue la veille.
Mais oui, en plus, c'était survenu la veille.
Le Conseil des ministres a été à peu près le plus court de l'histoire hier. À 13h15, c'était fini. Pour situer les gens, ça commence à midi. Des fois, ça prend toute l'après-midi. Donc, le communiqué compliqué avec la nomination est sorti quand même assez tôt dans la journée. On avait un texte qui était mis en ligne dès la fin de l'après-midi à ce sujet-là sur le site Internet du journal. D'autres médias en ont parlé également. Et pour les partis d'opposition, c'était comme leur présenter un punching bag, une cible facile, une occasion en or de dénoncer une nomination partisane, comme
ben oui.
C'était souvent dans...
D'ailleurs, le PQ a déposé une motion.
Oui, et ils ont pris soin de le dénoncer aussi pendant leur point de presse. Alors, une occasion manquée pour Québec solidaire, ça ne fait pas très professionnel.
C'est pas la première fois.
C'est pas la première
fois. Le 5 octobre, il y a eu une question sur l'annulation d'une conférence de presse au sujet de la promenade Samuel de Champlain, la quatrième phase. C'est près du comté ou dans le comté du député Solzanetti. Ben, il a répondu comme Manon Massé ce matin. Jamais entendu parler de ça.
Oui, et tout récemment aussi, pendant un point de presse de Québec solidaire, un député de Québec solidaire n'était pas certain si le projet de loi C-18
à Ottawa
était à l'étude ou avait été adopté. Ben non, il a été adopté. Ce n'est plus un projet de loi, c'est une loi. Alors, je ne sais pas. Peut-être que justement, les députés de Québec solidaire...
Sont trop sur Facebook,
je pense, le matin. Ils devraient prendre le temps de lire le Bon Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Oui, il ne faut pas les boycotter, comme ils ont boycotté Cube pendant plusieurs mois.
Exact.
Merci beaucoup, Marc-André Gagnon.
Ça fait plaisir, tu me réinviteras.
À bientôt.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte. La croissance de leur entreprise.
Économie familiale.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Du Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Poète, mon prochain invité lance, à titre de troisième vice-président de l'Assemblée nationale, un concours d'écriture. Et donc, c'est Franz Benjamin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue en studio.
Merci.
Une première fois à Cube.
Une première fois à Cube. J'espère que c'est pas la dernière.
Non, ben non, certainement pas. Troisième vice-président de l'Assemblée nationale, on va commencer par ça. C'est un poste convoité. On l'a vu il y a un an.
Oui, c'est un poste effectivement qui était convoité. Donc, mais là, je suis très content de travailler avec les autres collègues, la présidente, les deux autres vice-présidents. Donc, on fait vraiment une belle équipe. Avec le soutien aussi des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, ça va bien.
Pour les gens, je rappelle qu'il y a un an après l'élection, justement, vu que ce poste-là était tellement convoité, ça a mené à une espèce de chicane monstre au sein du caucus du Parti libéral. Vous le vouliez vraiment, ce poste-là? Vous étiez prêt même à démissionner pour l'obtenir? L'autre jour, sur le trône, je vous voyais après la baudruche de Solzanetti. Je vous regardais, je disais, oh mon Dieu, il doit regretter. Vous avez été obligé de suspendre l'Assemblée.
Vous savez, j'ai déjà été dans une autre vie président du conseil municipal de Montréal.
Oui.
Et le conseil municipal de Montréal, c'était pas tout à fait un conseil tranquille. Et puis, j'ai été président de ce conseil-là pendant 4 ans et ça a très bien été. Évidemment, des scènes comme celle-ci, c'est des scènes qu'on ne souhaite pas. Cependant, vous savez, c'est déjà derrière moi.
Oui.
Et on regarde vers l'avant. Le collègue, on s'est parlé, donc, et puis c'est réglé. Et puis
donc, vous avez parlé à Solzanetti?
Ah oui, bien sûr, évidemment. Vous savez, nous sommes 125 collègues à l'Assemblée nationale.
Oui.
Ce que vous êtes témoin au quotidien, c'est que dans la majorité des cas, ça se passe très, très bien.
Mm-hmm.
Et nous sommes appelés, pas condamnés, mais nous sommes appelés à travailler, à vivre au quotidien ensemble. Évidemment, donc, il y a eu une bonne discussion entre nous. Et puis donc, amende honorable a été faite. Donc, c'est derrière moi, on va de l'avant.
Ah oui, comment il a fait amende honorable à votre égard?
Mais on a eu une discussion et cette discussion-là a été une discussion franche. Donc, et j'ai apprécié d'ailleurs cette discussion-là que j'ai eue avec lui.
Vous lui avez reproché ce geste-là?
Non, en fait, si vous permettez, donc je ne rentrerai pas dans les détails de l'échange qu'on a eu,
ouais.
Mais j'ai apprécié l'échange qu'on a eu, qu'il a initié d'ailleurs.
Moi, je voilà. Suis les débats du Parlement depuis longtemps. J'étais surpris que vous ne lui donniez pas un premier avertissement. J'ai vu dans le passé des présidents, lorsqu'il y avait des phrases comme celle-là, dire, non, là, premier avertissement. Et on sait bien qu'au bout de trois, je crois, ouais. La personne peut être expulsée de
voilà.
La salle.
En fait, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'au niveau des sanctions, un président de l'Assemblée nationale est très limité. C'est-à-dire, donc, j'ai fait un rappel au décorum. Ça a été fait à deux reprises.
Mais pourquoi pas un premier avertissement?
Écoutez, moi, je pense que sur le coup, donc, pour moi, je considérais ce rappel au décorum que j'ai fait à deux reprises comme étant un avertissement clair, donc que c'était inadmissible. Mais ceci étant dit, comme je l'ai dit, donc ça a été discuté et puis on va de l'avant aujourd'hui.
Vous trouvez qu'on est un Parlement sage? Vous me disiez ça hors micro tout à l'heure, ça m'intrigue.
Ah ben écoutez, vous savez, quand je nous compare comme Parlement, comme Assemblée nationale, avec toutes les règles de décorum, nos règlements, quand je nous compare dans nos pratiques quotidiennes, nous sommes vraiment un Parlement beaucoup mieux, je dirais pas organisé, mais beaucoup...
Bridé?
Non, pas bridé. En fait, il y a une plus grande sagesse de notre Parlement. C'est-à-dire, le décorum est davantage beaucoup plus respecté. Et il y a des écarts qu'on n'accepte pas en termes de grossièreté, en termes de d'indélicatesse. Quand je nous compare, par exemple, à des parlements où je vois des parlementaires se battre à coups de poing sur la gueule.
À Taïwan.
Bon, voilà.
Notamment.
Pour ne citer que Taïwan.
Oui, parce qu'il y en a d'autres. Oui.
Absolument. Donc, je nous trouve quand même... Il y a toujours lieu de s'améliorer. Il y aura toujours place à l'amélioration. Mais cependant, quand je nous regarde, je ne me console pas. J'en suis très fier. Je suis très fier de nous comme Parlement.
Vous êtes un homme de mots.
Oui.
Or, on a des mots interdits à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne vous dérange pas? C'est très paradoxal parce que les députés ont une protection absolue contre les poursuites judiciaires. Mais en même temps, il y a des mots qu'ils ne peuvent pas prononcer. Comme girouette.
Ben écoutez,
est-ce que c'est pas paradoxal? Est-ce que c'est pas une sagesse excessive?
Vous savez, ce n'est pas que les mots qui sont interdits, c'est le contexte aussi d'utilisation des mots aussi. Un mot, par exemple, le mot faux, par exemple. Le mot faux, c'est un mot qui est interdit dans un contexte en particulier lorsqu'il est utilisé. Donc, mais ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit de prononcer, de dire le mot faux. Donc, mais je pense qu'il faut...
Mais mentir.
Oui, mentir, oui, absolument.
Mensonge.
Absolument. Mais vous savez...
Girouette.
Justement, et c'est ça la beauté de notre langue aussi. Notre langue nous donne cette possibilité de pouvoir nommer les choses clairement, mais sans insulter l'autre, sans porter atteinte à la réputation de l'autre. Et ça, je trouve que, évidemment...
Est-ce que le lexique n'est pas trop long? Trop...
Oui. Écoutez...
Est-ce qu'il ne comporte pas trop de mots?
Est-ce qu'il comporte pas trop de mots? Il y a
vous
des mots.
Vous êtes un homme de mots, là.
Mais je conçois, en fait, moi, j'ai regardé le lexique à quelques reprises et il y a des mots qui sont placés, c'est des décisions de président antérieurs qui ont été prises.
C'est ça.
Et
ça, il faut le dire aux auditeurs, là, quand un président dit retirer ce mot-là, il est pour toujours aux enfers.
Et je retrouve une grande sagesse de ces présidents-là
en
faisant interdire certains mots et surtout quand on se place dans le contexte que le mot a été utilisé. Parce qu'il y a le mot, mais il y a le contexte aussi.
Est-ce que vous hésiteriez avant d'interdire un mot? Parce que vous avez ce pouvoir-là, là. Vous pourriez prononcer une décision, dire ce mot-là, retirez-le, puis il irait dans le lexique.
Je pense que je prendrais en délibéré le mot et le contexte dans lequel le mot est utilisé. Si c'est un mot qui est utilisé pour blesser, pour faire mal à autrui, pour insulter, pour dénigrer... Donc, je pense qu'à ce moment-là, ce mot-là, il faudrait le retirer. Mais dans le cas contraire, je pense qu'on a un débat, on a un Parlement qui fait des débats qui sont parfois assez vigoureux, et c'est correct comme ça, mais cependant, sans sombrer dans l'insulte ou dans la caricature.
Je veux revenir à la querelle parce que c'est la première fois que je peux vous poser des questions là-dessus. Vous vouliez obtenir le poste de troisième vice-président. Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil aussi, elle a finalement été expulsée du caucus. Dominique Anglade, votre chef, a démissionné peu après cette querelle. Un an plus tard, est-ce que ça valait vraiment la peine de se cramponner autant à ce poste?
Vous savez, ça fait un an plus tard, vous avez raison, je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là. Et ce que je fais aujourd'hui, en fait, moi, ce n'est qu'une partie du temps que je suis ici, quoi, que j'agis ici comme vice-président de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Dans quelques minutes, je prendrai la route pour aller rejoindre mes concitoyens et concitoyennes de Viau.
Mais oui.
Donc, c'est ce dont je suis le plus fier.
Vous êtes député de Viau, oui.
Voilà. Donc,
Mais vous étiez prêt à démissionner si vous n'obteniez pas ce poste de troisième vice-président?
Je pense que là encore, il faudrait peut-être regarder tout le contexte. Et comme je l'ai dit, je me suis déjà exprimé là-dessus. Mm-hmm. Je ne compte pas m'exprimer encore là-dessus. Pour moi, c'est derrière moi depuis maintenant un an.
Mais est-ce que ça valait la peine de mener ce combat-là jusqu'au bout?
Ben, si vous le voyez comme un combat, donc...
Mais là, moi, quand on dit « je suis prêt à démissionner
», mais écoutez,
vous avez mis votre tête sur le bio.
Vous savez, je pense, quand on est en politique, et moi, c'est ma façon de faire de la politique.
Oui.
On vient en politique avec des valeurs, on vient en politique avec des convictions. Et ces convictions et ces valeurs-là, je les ai toujours défendues. Et
oui, mais obtenir un poste, c'est pas une valeur ou une conviction.
Oui, mais quand on a des principes, donc il y a des principes qui justifient, qui expliquent, par exemple, qu'on souhaite être là ou pas là. Donc, alors, c'est au nom de ces principes-là.
Okay.
Donc maintenant, un an plus tard, comme je vous le dis, c'est derrière moi. Je suis très heureux de servir les 124 collègues de l'Assemblée nationale.
Je comprends, mais ça a mené à toute une crise dans votre parti.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est derrière nous. Souhaitons que les choses aillent mieux dans le monde.
Okay.
Les 124 collègues de l'Assemblée nationale.
Avant de parler du concours, il y a Marie-Claude Nichols qui voulait obtenir une sorte de moitié de ce poste-là, une solution moitié-moitié. Vous avez dit « je suis aussi député de Viau ». Est-ce que ça ne vous aurait pas aidé à faire finalement votre travail si vous faisiez une moitié de ce boulot de troisième vice-président?
Je comprends que c'est un enjeu qui était très important pour vous, mais cependant, vous savez, il y a... À l'Assemblée nationale, à ce que je sache, il n'y a jamais eu de vice-président à demi-temps ou de président à demi-temps.
Mm-hmm.
On est président, on n'est pas président. On est vice-président, on ne l'est pas. Donc voilà.
Donc il n'y avait pas assez de précédents.
Voilà.
Puis là, il y a de vos collègues, il y a le président du parti qui ont dit « ben, on serait prêt à réintégrer Mme Nichols ». Vous, qu'est-ce que vous souhaitez?
Ce que je souhaite, c'est que tous les libéraux du Québec... Donc, se rejoignent au sein de la famille du Parti libéral du Québec.
Et Mme Nichols?
Tous les libéraux.
Et ça inclut Mme Nichols?
Absolument, bien sûr.
Parce qu'elle n'est plus libérale?
Bien sûr. Moi, je pense que...
Tête de cœur? Mais...
Être libéral, c'est porter des valeurs. Moi, en tout cas, c'est ce que je conçois. Pour moi, être libéral, c'est porter des valeurs dans lesquelles on croit et pour lesquelles on milite et pour lesquelles on s'engage à servir les Québécoises et les Québécois.
Et parlons du concours. Donc, ça s'intitule... C'est le concours d'écriture point virgule. Et le thème, c'est un drapeau aux couleurs de vos rêves. Et là, voulez-vous faire rêver les jeunes en couleurs?
Pas du tout. c'est plutôt... je crois que ce concours-là se veut et ça participe aussi aux choses dans lesquelles je crois. Moi, je crois beaucoup dans le Québec. Je crois beaucoup aussi dans notre belle langue. On a une langue extraordinaire qu'on a intérêt à protéger, à valoriser, à promouvoir. Et c'est un concours qui vise justement la promotion et la valorisation de la langue française auprès des jeunes du secondaire. Et je suis très heureux.
Premier cycle, hein?
Premier cycle, première année, premier cycle du secondaire, donc première et deuxième année.
C'est ça.
Secondaire, à tous les jeunes du Québec. Et ce concours-là, c'est pour moi quelque chose d'important parce que c'était pour moi important à arriver comme vice-président de l'Assemblée nationale et de dire est-ce que nous pouvons, comme Assemblée nationale, porter quelque chose au nom de la langue française sans les couleurs partisanes.
Mm-hmm.
Et ça, c'est le créneau que j'ai trouvé qui était le plus intéressant. Et je suis très heureux d'ailleurs, quand j'en ai parlé à mes collègues de la présidente et les oui. présidents, que tout de suite, spontanément, donc j'ai eu leur appui, que nous avions pu, avec le soutien du personnel de l'Assemblée nationale, mettre ce concours-là en place. Je pense que ça va être un bon moment pour notre langue à l'Assemblée nationale.
Les mises en candidature ont commencé le 18 septembre. En avez-vous reçu ou est-ce que vous savez s'il y a certaines écoles qui participent?
Nous
combien?
Espérons recevoir. Si je me fie à l'écho que j'ai de mes collègues députés, nous allons avoir des écoles qui vont participer. Et les gens ont jusqu'en janvier 2024.
Oui, pour soumettre, 19 janvier. Oui.
Voilà, pour soumettre les candidatures. Et je suis sûr qu'il va y en avoir. Si je me fie aussi aux échos dans ma circonscription, je sais qu'on va en avoir. Ce qui est intéressant avec ce concours aussi, c'est que c'est un concours qui cadre parfaitement avec les orientations de l'enseignement du français au secondaire aussi. Mm-hmm. Donc, et les professeurs de français vont trouver à travers ce concours-là un moyen extraordinaire dans leur cours même de pouvoir encourager des jeunes à participer à ce concours.
Mais les jeunes et la poésie, je me dis, c'est pas quelque chose que pratiquent beaucoup les jeunes, à part à travers les chansons. Est-il justement de la poésie chez les jeunes aujourd'hui?
En fait, c'est pas un concours de poésie, c'est un concours de rédaction. C'est okay. un concours de rédaction, mais si vous voulez parler de poésie, on peut très bien parler de poésie.
Est-ce que ça peut être un poème?
Ah ben oui, j'imagine, c'est un texte. C'est un texte, 300 mots, donc ça peut très bien être un poème.
Mais c'est argumentatif.
Absolument.
Hein, c'est vrai, c'est
oui.
argumentatif.
Oui.
Mais on peut argumenter en poésie.
On peut argumenter en poésie, en slam, donc absolument. Et j'ai déjà vu des concours de slam, des concours de slam où les jeunes argumentaient à travers le slam sur toutes sortes de thèmes. C'est possible.
Donc, c'est un concours, c'est de la création littéraire, au fond.
Absolument.
Trois prix, donc il y a 1 700 $ pour les trois meilleurs textes, mm-hmm. 1 300 $ pour des cartes cadeaux pour le personnel enseignant qui soumet à la candidature. Alors, c'est ça, les candidatures, c'est jusqu'au 19 janvier 2024. Juste une question, un drapeau aux couleurs de nos rêves, il y a juste deux couleurs sur le drapeau du Québec, est-ce qu'il en manque?
Non, il n'en manque pas du tout.
Non, il n'en manque pas?
C'est selon moi, en fait, je ne veux pas être chauvin, mais c'est l'un des plus beaux drapeaux au monde qui m'a été donné de voir, le drapeau du Québec, notre fleur de lysée, 75 ans cette année. Donc justement, c'est la raison pour laquelle on a retenu le thème du drapeau. Donc c'est l'occasion aussi de parler du drapeau, pour les jeunes, de parler de leur attachement à cette symbolique-là importante. Vous savez, moi, quand je me promène partout au Québec, on voit le drapeau du Québec. Mm-hmm. Mais quand on voyage à l'étranger et qu'on voit le drapeau du Québec, je vous assure, il y a un sentiment encore plus fort, plus puissant. Donc, et ça, c'est toute cette symbolique-là.
Mais ça m'avait marqué, moi, dans le texte « Québécois, notre façon d'être canadien », qui avait été écrit par Jean-Marc Fournier et Philippe Couillard, il y avait cet éloge du drapeau de Montréal, qui était peut-être plus, axé sur la diversité que le drapeau du Québec. Il y avait là-dedans nos origines, il y avait même maintenant, on a ajouté un élément au drapeau de Montréal. Est-ce que notre drapeau a assez de couleurs
par
rapport à celui de Montréal?
Le drapeau de Montréal, je le connais très bien. D'ailleurs, en 2017, donc,
on a ajouté
justement l'apport des
Premières Nations.
Donc, mais non, je considère que notre drapeau du Québec c'est un drapeau rassembleur. C'est un drapeau qui reflète très bien ce que nous sommes comme nation. Mm-hmm. Et puis, donc, et tout comme aussi le drapeau de Montréal reflète très bien l'histoire de Montréal comme ville, comme métropole aussi.
Très bien, mais c'est un grand plaisir de vous recevoir, Franz Benjamin, député de Viau et troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.
Merci.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.